I am very happy. I am sure with my staff that a good work for this season.
RMC Football Show.
We were 15 teams. Now we are 13. Alors my job is to ask FIFA to come back to 15. Was my English was good?
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot. Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit, l'After en direct sur RMC Sport News. Après cette grande soirée de foot, il y avait de la Liga, il y avait de la Ligue des Champions ce soir, on a vu plein de buts, du suspense, de l'intensité partout. Daniel Riolo est là, Daniel bonsoir.
Salut les amis.
Et Lionel Charbonnier à ce soir.
Salut
Lionel.
Salut à tous.
L'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Tout à l'heure, Jérôme Rotten nous rejoindra, il était à Madrid ce soir, il s'est pas trompé de match, hein, Jérôme, on va le retrouver dans quelques minutes. On aura également Julien Laurence, David Lortolari, Simone Rovira pour parler Ligue des Champions. Les scores, si vous arrivez seulement maintenant, ou si vous avez raté la fin de cette soirée, en Ligue des Champions, l'Atlético bat la Juve 2-0, City gagne à Schalke 3-2, et puis en Ligue 1, ce soir, le PSG bat Montpellier 5-1, alors qu'un peu plus tôt dans la journée, Bordeaux et Guingamp avaient fait match nul 0-0. Évidemment, le 32-16 est ouvert pour toutes vos questions, diverses et variées. Participez au débat, on est là pour vous, donc n'hésitez pas à nous appeler. Direct Studio, sur l'appli gratuite RMC Sport, vous téléchargez l'appli, vous appuyez sur la petite radio en haut à droite, vous envoyez vos messages, et le hashtag RMC Live si vous êtes sur Twitter. Attention messieurs dames, 23h, l'After est là jusqu'à minuit. Les trois points de débat de tout le monde, c'est tout de suite jingle.
L'important c'est l'essentiel.
Le plus important c'est les trois points.
Et souvent l'essentiel c'est le plus important.
Daniel, tes trois points de débat.
D'abord en préambule, dire qu'on a quand même vécu une très belle soirée de Ligue des Champions. Le premier point concernant le match vedette du soir, que c'était un match que j'ai trouvé assez extraordinaire, dur, physique, et qu'au final je dirais que l'Atlético a mis KO, la Juve, étant la dimension physique m'a semblé être importante. La tactique dans le point 2, Allegri, Simeone, des coachs qui peuvent se ressembler dans leur volonté d'avoir une assise défensive forte, et à ce petit jeu là c'est très dur de rivaliser avec Simeone, et Allegri selon moi aurait peut-être dû tenter autre chose. Et puis le point 3 concerne le match du PSG, et au-delà de la victoire, penser à ce qu'a dit Aulas dans l'après-midi et lui demander mais vraiment de s'occuper de son club et de se taire, parce que il est très souvent ridicule quand il parle, mais là aujourd'hui je pense qu'il a explosé le plafond du ridicule quoi.
Je vous rappellerai les faits tout à l'heure concernant Jean-Michel Aulas. Lionel, tes trois points.
Moi, mon premier point, c'est peut-être un ouf par rapport à la journée, la soirée d'hier où on avait des matchs. J'avais pas l'impression de vivre la Champions League. Là, ce soir, j'ai vécu une vraie Champions League. Donc, merci pour ça, parce que au moins on est rentré dedans. Mon deuxième point, donc ça rejoint un peu le premier point de Daniel. Mon deuxième point, c'est la Juve qui passe complètement à travers et qui est peut-être, à mon avis, en grande difficulté pour le retour, parce que on connaît l'Atlético. L'Atlético, c'est très difficile de lui marquer des buts, et en plus quand elle doit défendre en contre-attaque, c'est très très fort. Et mon troisième point, le PSG en 3 minutes quoi, parce que il a
facile.
Montpellier a sombré en 3 minutes.
Bah, et moi, on va parler du PSG, mais on va quand même démarrer par Atlético Juve, hein, si vous voulez bien, on va retrouver Jean-Montaigne dans quelques instants, parce qu'on a je pense qu'on a vu là le plus beau match aller des huitièmes de finale avec cette confrontation. Une intensité de dingue, scénario incroyable. Diego Costa qui dès le début du match dit mais qu'est-ce qu'il va faire? Il prend son carton après la septième, il harcèle l'arbitre dans tous les sens.
Je doute
il va
un
au
peu.
Combat. Déjà c'était une surprise de le voir titulaire. Finalement la comparaison de Daniel avec un match de boxe est pas mal je trouve. Et puis Diego Costa peut en être un peu l'incarnation.
Moi je suis un petit peu sceptique sur le carton. Alors est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il a eu des agissements au niveau de l'arbre?
Ouais, sur le coup franc. Parce qu'il fait exprès de s'avancer sans arrêt.
Ouais, mais t'as vu comme il avance. Franchement, quand il prend le carton, il a fait même pas un quart de pas.
Le truc, c'est qu'il arrêtait pas de lui dire. Donc c'est vraiment arrête de prendre.
Ouais, c'est un cas. Bon, après, à un moment donné,
le carton, c'est anecdotique. Hein.
Parce
qu'il est suspendu. Évidemment.
Non, il est suspendu et Diego Costa sans Diego Costa quand même c'est pas la même.
C'est anecdotique. Parce que je disais dans le match en fait oui. Fait qu'il manque le retour, mais c'est pas ça qu'on retient principalement de la rencontre. De toute façon, on s'attendait à ce que l'Atlético, ils adorent mettre le débat sur le plan de la âpreté du match, de le côté baston, et après à l'intérieur de ça, ils arrivent à faire parler la technique, parce qu'il y en a dans cette équipe, évidemment, qu'il y en a. Donc ils arrivent ensuite par petites touches à te faire mal, une fois que globalement ils essayent de mettre une emprise sur toi au niveau du contact, une emprise physique. En plus, chez eux, avec l'ambiance, c'est le contexte qu'ils arrivent à mettre dans un match qui est leur atout numéro un. Si toi tu te laisses un peu faire, tu réponds pas de ce point de vue-là, ou tu n'es pas capable de proposer autre chose comme peuvent le faire en Liga aussi bien le Barça quand ils sont meilleurs techniquement, ou le Real qui a du répondant dans tous les domaines de jeu, bah souvent l'Atlético ils sont plus forts, c'est une des meilleures équipes d'Europe. Et là la Juve, je suis un peu déçu de ce qu'ils ont proposé. J'ai l'impression que sur la première période, ils se sont dit bah s'ils veulent le mettre sur ce plan-là, bon, on va jouer comme ça, et puis si on ramène un 0-0, eh ben on ira s'expliquer dans 3 semaines.
C'est ce qu'ils étaient venus chercher.
Mais je pense
ils
aussi,
étaient venus chercher et ça et sans rien proposer.
Je pense pas que ce soit une bonne approche finalement contre l'Atlético de faire ça. Il faut essayer de les jouer. Quitte à ce que ça tourne, que
ouais,
tu vas prendre des coups, soit t'acceptes de prendre des coups, t'essayes de leur rendre, mais généralement ils les donnent un peu mieux que toi. Mais s'ils sont toujours malins, tu te demandes toujours comment ils sont pas plus chopés que toi, et on a l'impression vraiment ils s'entraînent à ça. Mmh. D'ailleurs, je pense que c'est le cas. Donc, essaye de déplacer un peu le débat, essaye de proposer autre chose. Et ils l'ont pas réellement fait.
Non, ils avaient pas les armes pour répondre ce soir. Pour moi, ils n'avaient aucune arme. Je suis complètement d'accord avec toi.
Parce que Dybala était un peu transparent. Parce que
Ronaldo, je l'ai pas vu. Parce que le
milieu de terrain a souvent été mangé et a manqué ses peut-être
mieux en début de caractère. En début de période, je trouvais que les transitions défensives étaient mieux. J'allais en faire mon premier point en disant quand même quelle défense extraordinaire de la Juve, et parce que l'Atlético avait le monopole du ballon dans les 20 premières minutes et il ne proposait rien, il n'y avait pas de frappe, il n'y avait rien, la Juve n'était jamais en danger.
Ouais, mais eux,
donc je me suis dit, bon, ils vont finir comme ça.
Ouais, mais eux, ils ne te dominent pas, Lionel. Eux, c'est... Je te rends deux, et puis au bout d'un moment, il y aura une action, comme le premier but, si tu dois dire un but typique Atlético, c'est leur but. Le corner, la confusion,
ça se cogne dans tous les sens,
le ballon retombe, t'en as un qui tacle, ça va dedans.
Kevin est là, supporter de la Juve, au 32-16. Salut Kevin.
Ouais, salut
Kevin. Kevin, est-ce que tu y crois encore à la qualif?
il faut y croire, parce que tant que c'est pas fini, puis l'année dernière, on nous avait cru mort après le 3-0 aussi à domicile en plus, et on devait jouer la qualif là-bas, ça s'est joué à une décision arbitrale à la 94e, donc on va dire que cette équipe de la Juve, je pense que elle peut continuer à surprendre, mais j'en reste pas moins, mais très en colère ce soir contre beaucoup de choses, parce que je comprends pas, comme l'a dit Daniel, l'approche du match. Parce que pour moi, quand on est une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions, on fait pas de calcul, on joue. Et puis on essaye de marquer au moins un but là-bas, on sait l'importance des buts à l'extérieur.
Mais c'est plus fort que tout pour Allegri, ça. À chaque fois, il retombe en Ligue des Champions, il retombe dans le calcul, dans l'histoire je vais aller faire 0-0 parce que l'Atlético c'est compliqué, on peut pas se découvrir. Après, il faut quand même dire que, je sais pas, est-ce que tu t'attendais, si tu dois voir les matchs de la Juve, est-ce que tu t'attendais à Dybala titulaire?
Ah oui, moi je m'attendais à Dybala titulaire, je voulais les trois devant.
Parce que il lui est arrivé de faire autrement, tu vois, on pouvait se demander est-ce qu'il allait continuer à faire comme il fait parfois en championnat.
Dybala, Casper absolu en plus là.
En plus.
Non mais quand t'as les trois devant, quand même, tu t'attends à ce que la Juve joue beaucoup plus offensif, c'est ce que je pensais.
Je comprends pas
cette attitude.
On a perdu la bataille du milieu de terrain. Pjanic, il a été mais très très mauvais aujourd'hui.
Pjanic, il était
fiévreux, non? Pjanic, il a été aligné, il était pas bien.
C'est un choix. Tu vas faire un combat à l'Atlético. Si t'es l'entraîneur, tu décides le mec qui est fiévreux du matin, parce que c'est vrai ça, ce que tu dis. Tu sais que tu t'exposes. Alors est-ce qu'après il a une autre solution à mettre à sa place?
L'effectif quand même.
Ouais.
Rappelons que Kedira n'est pas là.
Mais tu le sais s'il est souffrant, tu vois, l'Atlético, faut pas jouer souffrant.
Non, mais un truc à rajouter. Qu'est-ce que t'as pensé de Cristiano?
Cristiano, il a été bon. Moi, je trouve que ça a été un des seuls peut-être à vouloir peut-être faire un petit peu de différence, à jouer juste devant, je trouve. Pour qu'on m'arrête si je me trompe. Moi, je trouve qu'il a pas été si mauvais après. C'était compliqué pour les trois devant, de toute façon, parce que très mal alimenté.
Ils n'arrivaient pas à faire la liaison milieu attaque. Les mecs de l'Atlético, ils te bouffaient
exactement.
Trop.
Là où moi je reproche quelque chose à Allegri, alors que c'est pourtant une de ses forces, c'est sur son coaching qui est très tardif. Je comprends pas l'entrée de Kane. Alors même si Pjanic est mauvais, à la limite, si on est vu qu'on perd déjà 1-0, pourquoi pas faire rentrer directement Cancelo ou Bernardeschi tout de suite. Je comprends pas pourquoi Cancelo démarre pas le match aussi. Ça, c'est un mystère pour moi.
Alors, bah, Cancelo démarre pas parce qu'il a privilégié quelque chose de plus défensif, sachant qu'il avait Dybala, quoi. Moi, je pense qu'il y a un peu de ça.
Ouais, c'est n'importe quoi. Alors, Deschino, je jette pas la pierre. Il a pas été plus mauvais qu'un autre. Mais quand on voit ce que Cancelo apporte depuis le début de saison, sa vivacité, sa technique, oui, défensivement, c'est pas l'assurance touriste. Mais Deschino non plus, hein. On se voit pas la face. Mais justement, je comprends pas pourquoi on fait pas entrer Cancelo à la limite dans un poste plus offensif à la place peut-être de Dybala pour essayer d'apporter un peu plus de percussion. Je comprends pas les changements qui sont trop tardifs. On est dans la réaction en fait, alors qu'on doit pas être une équipe qui est dans la réaction. On doit être, c'est nous qui devons faire le jeu, c'est nous qui devons poser des choses, surtout contre une équipe comme l'Atlético qui justement elle aussi ça lui dérange pas de pas faire le jeu et d'attendre et de jouer en compte. Donc pourquoi nous on joue pas là-dessus et pourquoi on essaie pas de leur faire plus mal en fait? S'il y a une réaction à avoir au match retour, c'est ça. Faut qu'on leur rentre dedans parce que eux.
De toute façon, tu pourras pas faire autrement, hein. T'es obligé, hein.
Ouais, mais Kevin, quand tu vois l'Atlético et tu viens de le dire, quand tu sais que c'est une équipe qui est capable de jouer en contre, est-ce que ça te fait pas encore plus peur? Parce que quand tu les vois la grinta qu'ils mettent et surtout ces transitions défense-attaque, c'est une force de frappe incroyable pour l'Atlético. Est-ce que ça te fait pas plus peur pour le match retour?
Mais en fait, de toute façon, on sera obligé de jouer comme ça. Donc, on a beau avoir peur ou leur jouer comme ça, on est obligé de le match retour de jouer comme ça et de s'exposer à nous, de faire comme on a fait à Madrid l'année dernière, de marquer vite, rapidement et de leur foutre le doute. Pour que justement eux, ils soient aussi pas tentés aussi de trop jouer de l'avant. Et puis pour qu'ils s'occupent surtout à bien défendre.
Ah non mais eux, t'inquiète pas, ils ne feront que défendre.
Eux, ils savent défendre. Hein.
Ils vont y aller pour défendre. Hein. C'est un sacré exploit si la Juve arrive à retourner l'Atlético parce que c'est pas une équipe qu'on retourne facilement.
Hein. Ouais, bien sûr, mais autant l'année dernière le Real avait des carences défensives et Ramos n'était pas là au match retour, autant là, quand on connaît les qualités défensives, ça va être très très compliqué.
Merci Kevin en tout cas.
Merci à vous.
Bonne
Salut Kevin. Juste un truc quand même sur le. On va accueillir Jérôme Rotten dans quelques instants. Mais juste d'abord l'action, le but refusé à Morata avec Chiellini là qui joue parfaitement le coup. Est-ce que Chiellini est le premier footballeur d'envergure à avoir battu la machine? C'est qu'il a baisé le VAR, Chiellini en fait. Quand vous réfléchissez.
C'est vrai qu'il exagère. Il exagère beaucoup trop.
Il y a pas le VAR. Ce but 10 fois sur 10, il est accordé. Il y a aucun problème.
Je pense, c'est l'éternel débat sur.
Parce que sur le coup, moi, je pense pas. Je vois pas.
C'est Kasparov qui bat Blue.
Non, mais c'est vrai qu'il est quand même. Il est à peine touché. Il est touché.
Il
après.
Il prend un appui avec le pied pour se pousser en avant lui-même.
Ouais, mais après.
Je pense qu'il a envisagé que la caméra verrait la main dans son dos.
Il n'était pas non plus dans son match, Kéline. J'ai trouvé ce soir qu'il pensait plus, justement, à instrumentaliser le jeu et l'arbitrage, voire le VAR, plutôt qu'autre chose. Parce que s'il reste debout, le premier coup, sur le but, s'il reste debout,
il n'y a rien.
Il n'y a rien. Ouais. Voilà, c'est tout. Et là,
on revoit le ralenti sur RMC Sport News. En fait, il prend vraiment un appui avec son pied pour se projeter en avant, tu vois, pour exagérer la chute. Ouais,
je pense qu'ils sont. C'est un peu ce que tu disais, Lionel. Ils sont venus trop pour être dans le calcul. Genre, je pense qu'ils étaient dans l'acceptation d'abord de partir.
Un petit peu
pour
ce qui s'est fait hier. À l'image des matchs qu'on a vus hier, c'était trop dans le calcul. Il y avait trop de calculs. J'étais un petit peu moi.
Hier, de quel match tu parles?
Les deux rencontres qu'on a vues,
je sais pas s'il y avait le calcul. Hier, le Barça, ils veulent gagner le match. Lyon fait son max pour ne pas le perdre.
Barça, ouais, mais
y a pas, dans ce match-là, il n'y a pas vraiment de calcul.
Restons sur ce soir. On a Jérôme Bretel avec nous. Profitons de sa présence. Il est à Madrid. Jérôme, il était donc au stade pour ce match. Salut Jérôme.
Salut les gars.
Oui,
salut
Jérôme. Ah, mais il est là.
Il y a un petit décalage, hein, évidemment, à chaque fois. C'est le temps que notre parole arrive à Madrid et que celle de Jérôme nous revienne. T'as vu un super match, là. Tu t'es pas trompé, hein.
Non, je me suis pas trompé. Bon, on savait, hein, que en termes d'intensité, de toute façon, elle existerait, que ces matchs-là nous réservent toujours, ces matchs comme ça avec beaucoup d'énergie, beaucoup de duels, un côté tactique aussi dans le match, même si ça s'est débridé assez vite, hein. La Juve a réussi à contrecarrer le pressing de l'Atlético sur la première mi-temps, aurait même pu en forçant un petit peu faire sauter le verrou. trop d'erreurs techniques pour le faire. L'Atlético a été décevante d'un point de vue technique en première mi-temps. Vraiment, ils ont totalement refusé le jeu, certainement trop dans l'excitation aussi. Et puis la deuxième mi-temps, ça leur a fait du bien parce que déjà ils sont revenus avec des bases, c'est-à-dire essayer de, avec le ballon, d'inquiéter cette équipe de la Juve. Ils ont gagné tous les deuxièmes ballons, ils se sont créés deux grosses occasions en début de deuxième mi-temps. Ça les a mis en confiance et paradoxalement la Juve qui avait maîtrisé les débats a complètement disparu et ils se sont fait manger sur la deuxième mi-temps, donc le score est logique. Et en effet, je vous écoutais juste sur le débat d'avant, ça va être difficile pour la Juve de renverser cette équipe de l'Atlético parce que il y a eu trop de manque dans l'investissement, mais surtout dans la façon de toucher le ballon, d'aller vers l'avant. Le milieu de terrain de la Juve a été vraiment hyper décevant. Pjanic et Bentancur entre autres.
Bentancur a souvent été court et souvent été pris.
Ce que je trouve, Jérôme, c'est que je trouve vraiment que la Juve a un petit peu payé sa première mi-temps, c'est-à-dire qu'ils se sont vus beaux. Ils étaient, bon, on le disait avec Daniel, un petit peu dans le calcul. Cette première mi-temps, ils la maîtrisaient un peu comme ils maîtrisent en championnat. Tu vois, ils sont capables de défendre, très bien défendre, sans jamais être mis en danger. Et ils se disent, bon, de toute façon, on va bien, ça va aller comme ça. Et puis à la maison, on va s'en sortir parce qu'en fin de compte, ils nous font pas si mal que ça. Elle nous fait pas si mal que ça, cette équipe de Madrid. Donc
moi, c'est un de mes thèmes.
Pour moi, il le paie.
Je sais que Jérôme est parfois un peu dubitatif par rapport à ça, mais je maintiens que là-dessus les Anglais et les Espagnols ont un avantage. C'est l'habitude de la baston. Quand t'as l'habitude, t'es tout le temps préparé à ça.
Championnat.
Alors là où je rejoins Jérôme, c'est que oui, en Coupe d'Europe, oui, tu peux l'élever ton niveau. Mais le problème, c'est que tu es dans une démarche de l'élever. Ça veut pas dire que tu ne peux pas.
Tu veux dire que la Juve domine trop son championnat.
Voilà. Tu vois, il y a une démarche qui doit être volontariste. Évidemment que tu peux le faire. Là-dessus, il a raison, Jérôme. Sauf que les autres, ils n'ont pas à se poser la question.
Ouais, je suis d'accord.
De le fait, de, tiens, on va se, non, eux, ils sont dans une habitude de ça.
Ah ouais.
Ils sont dans une habitude parce qu'ils sont sans arrêt, aussi bien en première ligue qu'en Liga, confrontés à ce genre de match-là où on leur rentre dedans, en tout cas, beaucoup plus que la Juve et beaucoup plus que dans notre championnat. C'est pour ça qu'à chaque fois on dit le PSG doit élever et tout. Je dis pas qu'ils ne peuvent pas le faire. On a vu qu'on l'a vu contre Liverpool. Ils peuvent.
Mais à chaque fois, on a l'impression qu'il y a
besoin d'une démarche.
On l'a vu là, Daniel, parce qu'on avait les deux matchs et je me suis fait la réflexion à un moment donné. Le PSG, je regardais les deux matchs, celui de l'Atlético et celui du PSG. Il y avait pratiquement.
Le PSG Montpellier.
Ouais.
Oh bah putain, tes yeux, ils ont vrillé ou pas à un moment, hein? Parce qu'au niveau intensité pression,
Non, je promets, non, faut pas non plus cracher comme ça. Non, je trouvais que pour revenir à mon deuxième point, quand le PSG Montpellier a craqué en 3 minutes, ils ont craqué. Jusque là, le PSG devait se faire mal pour aller obtenir sa victoire.
Oui, mais
le problème, c'est que ça va jusqu'à la 60e.
Est-ce que vous avez une question d'ordre tactique
le pied, voilà.
Ou autre à poser à Jérôme qui était sur place et qui a vu forcément le match différemment, puisque n'oublions jamais que nous avons vu que le réalisateur a bien voulu nous montrer.
Moi, j'ai vu que même si Diego Costa, on le sait, est un... au sens, c'est pas insultant ce que je veux dire, est un chien sur le terrain et fait du mal aux défenses. Mine de rien, on voit qu'il revient de blessure. J'ai pensé que l'entrée de Morata a fait du bien. Et j'ai l'impression que devant, je sais pas, il s'est passé, c'est en tout cas à ce moment-là que l'Atlético a pu passer devant. Est-ce que t'as vu que ça a changé quelque chose ou pas? Ah oui, il est parti, Jérôme. Il veut plus répondre, Jérôme.
Ah, apparemment, ça a coupé.
Il nous a pas entendu.
Dommage. Il ne répondra pas. On a eu une petite rupture avec Jérôme, malheureusement.
Non, il y a eu un bon plan de jeu.
On le remercie en tout cas. Merci Jérôme.
Il y a eu un bon plan de jeu, je pense, de la part de l'Atlético. Les Morata a fait une super rentrée après avoir vu un super travail aussi de Costa. Pour moi, c'était une équipe. C'était le plan de jeu. C'était comme ça. La 60e, Roland l'avait annoncé aussi. C'était prévu comme ça. C'était Costa. Tu vas
jusqu'à la 60e et ensuite tu vas au bout du bout et toi tu vas travailler parce que qu'est-ce qu'il a usé ses adversaires quand même. Il a eu une grosse activité, Costa. C'était hallucinant.
Ah oui, bien sûr. Mais en fait, tu veux dire.
Non, mais c'est la surprise. C'est là où les remplaçants, c'est là où tu gagnes. C'est là où une équipe est très importante. C'est-à-dire que l'importance des remplaçants.
Tu gagnes pas. Comment récolte les fruits du boulot de Costa.
Bien évidemment. Voilà. Bien évidemment. Mais c'est comme ça. Et c'est plus facile pour un coach de coacher comme ça quand t'as les mecs qui sont titulaires, qui font le taf. Ils vont au bout du bout. Le gars, il a pas 90 minutes dans les pattes. Il se met minable et après le remplaçant. Mais je peux te dire que Kelly, moi j'ai rarement vu la défense de la Juve en difficulté, même dans l'axe, comme je l'ai vu ce soir. Rarement.
On va accueillir Manouk, qui est supporter de l'Atlético et qui est avec nous. Salut Manouk.
Salut toute l'équipe.
Salut Manouk. Salut.
Bon, t'as vu un match typique Atlético là, non ?
Un match typique Atlético, mais typique Atlético Ligue des Champions. Parce qu'en championnat, c'est pas toujours comme ça. Mais comme je disais à votre collègue au standard, dans les grands matchs, ils sont là. Il y a rien à dire. Ils activent le bouton. Ils mettent on et il y a rien qui peut les arrêter. S'il y a trois petits points que je peux développer rapide, moi c'est la Grinta parce que ça, ok, on le sait, c'est made in Atlético. Il y a Oblak dont on n'a pas parlé encore, mais mine de rien, il fait les deux trois parades qui nous permettent de rester à 2-0. Et puis El Cholo parce que ok sa compo d'équipe on la connaissait à l'avance dans les grands matchs, c'est ce qu'il fait hein, il blinde le milieu de terrain et d'ailleurs on a mangé.
En fait c'était un 4-4-2, il a mis deux lignes de 4 hein.
4-4-2.
Ouais, et il s'étale sur ça. il prend totalement la largeur du terrain et c'est fait que t'as l'impression d'avoir deux deux barrières quoi avec des mecs qui sont méga solides.
Le 4-4-2 c'est le dispositif qui permet à la base de mieux défendre. À la base.
C'est ça. Et honnêtement, on n'a pas vu le milieu terrain de la Juve. Hein. Ils ont complètement éteint Pjanic, Bettencourt et voilà le milieu de la Juve. Et puis le fait qu'il arrive quand même à s'adapter et à se dire ok, finalement il y a la place contre la Juve qui est archi favorite. Et ok, même si Coquet, Diego Costa, c'était prévu qu'il sorte, il sort quand même tôt. Au bout d'une heure, il fait ses trois changements et il a le culot de le faire. Et c'est un coaching payant au final, même si c'est pas forcément les rentrants qui marquent, ça fait la diff. Et j'aime ce genre de coach qui n'hésite pas, qui sont pas frileux, qui attendent la 80e pour se découvrir un petit peu.
Let's go. Bah, en fait, je rejoins Manouk là sur le. En fait, c'est un truc, c'est toujours agréable de regarder l'Atlético, même si parfois, évidemment, c'est très loin du jeu léché de certaines autres équipes, la qualité.
C'est un style différent. C'est bien d'avoir un style comme cet. Après, n'oublions pas l'année dernière, ils sont sortis en poule, hein. Ils sont pas après
la finale
ils ont gagné quelque chose quand même,
donc la finale est le jeu cette année hein.
Ils vont chercher l'Europa League, non mais en Ligue des Champions parce que je réponds, l'auditeur disait ils appuient sur le bouton. L'année dernière, le bouton il s'est cassé. Bon, ils ont compensé avec l'Europa League et c'était une très très belle victoire. Ils sont allés au bout. Après, ils se sont remobilisés. Ils repartent. Oui, c'est vrai. Il y a évidemment le mythe de la finale chez eux. Bon, après, c'est pas automatique que tu gagnes quand t'as la finale là. Hein.
C'est clair.
Si tu prends les dernières fois où les équipes savaient qu'éventuellement elles pourraient jouer la finale la maison.
Le Lyon s'en souvient.
Ouais, ça. Oui, enfin bon.
Lyon, ah oui, Lyon s'en souvient.
Oui, mais tu t'attends pas à ce que Lyon il gagne la Coupe d'Europe. L'Atlético, ils peuvent se le dire.
En Europa League, Lyon, ils auraient pu faire quelque chose. Enfin, bon,
il y a des adversaires qui sont plus forts. Ça, c'est peut-être vu de chez nous. Mais c'est pas automatique, quoi, que tu la gagnes quand t'organises. Même pour quand ce sont les grands qui l'organisent à la maison.
En fait, t'as l'impression d'avoir une armée, tu vois, bien organisée en campagne, avec une ballerine devant, Griezmann, tu vois, qui t'étonne un peu.
C'est souvent comme ça et comme lui il adore ce football là et qu'il s'éclate là-dedans. Bon, écoute.
Bah Griezmann justement, tiens Manouk, je vais pouvoir l'écouter il y a quelques instants sur RMC Sport 1 avec Sonia Carnero, donc le virtuose de l'Atlético.
Antoine, c'est une affiche aux allures de finale ce soir qui a tenu toutes ses promesses. Quel match, quelle intensité.
Ouais, on savait que ça allait être un gros match. Il reste le match retour qui va être pareil. Donc voilà, faudra le préparer de la meilleure des façons et voilà, on avait le public derrière nous qui nous poussait et qui nous aidait dans les moments compliqués. Donc voilà, c'était on va dire un peu plus facile.
Est-ce que vous avez senti cette équipe de la Juventus plus fébrile en seconde période ?
Non, je sais pas. Peut-être c'est de notre faute. Nous, on a poussé plus. On a essayé de prendre le jeu en main. Et voilà, après, dès qu'on a mis le premier but et on gagne 1-0, ben, on a essayé de garder le score et de mettre de temps en temps une contre-attaque.
Cette fois, Cristiano Ronaldo n'a pas été le bourreau de l'Atlético Madrid, pas lors de ce match à l'an. En tout cas, vous avez parfaitement su le contrôler. Il ne s'est pas procuré beaucoup d'occasions au final.
Ouais, même eux, à part là, je m'en souviens que de le coup franc en deuxième période vers la fin. Mais voilà, on a fait un gros match défensivement. On sait que on concède peu d'occasions pour l'adversaire. Après, on a le meilleur gardien du monde qui peut faire une grande parade.
À titre personnel, Antoine, vous réalisez une saison incroyable de très haute intensité, vous aussi. Comment vous vous sentez à l'Atlético de Madrid? Vous sentez que vous êtes la clé de ce projet pour remporter cette Ligue des Champions?
Ouais, je me sens en pleine confiance. J'adore ces gros matchs, ces grands moments. Donc voilà, on prend du plaisir et j'essaie de prendre le jeu à mon compte et d'amener l'équipe vers le plus haut possible. Après, on verra. Il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir.
Merci beaucoup, Antoine.
Dans quelques instants, nous sommes de retour avec Daniel, avec Lionel, avec Simone Rovera, avec David Lorto. On entendra Blaise Matuidi et puis on continuera le débat, évidemment, à l'analyse de ces matchs de Ligue des Champions. Et on n'oublie pas le PSG, ce sera dans 20 minutes maintenant. Le PSG qui a battu Montpellier 5-1 en Ligue 1. 2-0 pour l'Atlético face à la Juve, 3-2 pour City à Schalke. Et puis, j'oublie pas Bordeaux-Guingamp, autre match de Ligue 1 tout à l'heure, 0-0. À tout de suite dans l'after.
Ensuite, tu peux l'oublier.
RMC Football Show. L'afterfoot, Gilbert Bribois.
L'after est là, jusqu'à minuit, il est 23h29, bien sûr, Lionel Charbonnier, Daniel Riolo, on accueille Simone Rovera. Simone, bonsoir.
J'ai dit ciao, buonasera, bonsoir, je l'ai dit toujours, mais je l'ai dit tellement de fois ce soir, et en plus c'est un soir de merde.
Oui, et surtout que tu peux dire ciao à la Juve, peut-être, bon, on va voir.
C'est pas bonsoir, ciao, bonsoir, soirée de merde.
David Lorto.
Allô, Freunde, salut à tous. Schalke, c'est Ergebnis pour moi aussi, parce que j'ai pas envie de dire des choses vulgaires.
Pour parler de Schalke tout à l'heure, bien sûr. Deux, trois tweets, hashtag RMC Live, Faisal qui nous dit, attendez le match retour, enterrez pas la Juve, ils ont réussi à retourner les situations contre Tottenham, et presque contre le Real, rappelez-vous. On les enterre pas complètement, hein, mais bon, il y a quand même.
Ça va être compliqué.
Ça va être compliqué. Michael me dit, dites que cette Juve, avec un tel milieu, n'est pas capable de grand-chose. Chan, Bettencourt, Matuidi, est-ce que c'est sérieux? D'ailleurs, John nous dit, personne pour parler de la faiblesse technique de Matuidi. Ok, il court, mais il ne crée rien de rien. Justement, écoutez Blaise Matuidi avec Sonia Carnero. Il parle de l'Atlético.
Arrange avec l'agenda après. Blaise, on n'a pas reconnu la Juve ce soir.
Ouais, c'est vrai qu'on aurait aimé faire un meilleur match. Je pense que on est tombé déjà face à une équipe très regroupée qui opérait en contre, et on savait que ça allait être un match compliqué, ça l'a été. Je pense que dans l'utilisation, dans le camp adversaire, on aurait pu faire bien sûr mieux, et c'est ce qui n'a pas été ce soir. Et après, on a été, quand on perdait le ballon, on a été découvert et on a subi quelques contres. Et voilà, après, on prend quand même deux buts sur coup de pied arrêté. C'est ce qui fait le plus mal aussi. On savait aussi qu'ils étaient bons sur ce domaine-là. Maintenant, rien n'est joué. Il faut rester positif. On a un match chez nous et voilà, on va rien lâcher. On va y croire jusqu'au bout.
Une petite stat sur les 12 derniers matchs de phase éliminatoire de l'Atlético, 10 fois l'Atlético n'a pas encaissé de but. Donc effectivement, là, défensivement, il se passe un truc.
Oui, ça.
On peut, voilà,
on le sait depuis longtemps.
Mon petit Simone, qu'est-ce qu'on dit en Italie?
Ah, on dit que la Juventus ce soir était méconnaissable, au moins sur ce qu'on a vu. On avait vu en Europe dans les premières matchs de la saison, sur sa façon de gérer bien les ballons, parce que on savait que la Juve aurait eu les ballons un peu plus que l'Atlético. Là, l'Atlético a totalement laissé faire à la Juve, 62% des possessions, mais s'il n'arrive pas à utiliser ses ballons pour faire mal, ça sert à rien. Il y a déjà des points faibles critiqués par certains journaux, par certains consultants, c'est-à-dire la faiblesse totale de Dybala. Une des rares joueurs qui se sauve, c'est Cristiano. Le manque d'ambition d'Allegri, qui déjà fait un choix un peu plus défensif en titularisant De Ciglio plutôt que Cancelo. Et on se pose la question, est-ce que Pjanic, que ce matin se réveille avec la fièvre, qui n'était pas bien pour la journée, tournée. C'était vraiment les cas de les faire jouer titulaires. C'est même pas lui les plus grands coupables. Mais on pose beaucoup de questions sur la gestion tactique et surtout émotive de la Juve de ce match. On dirait que quand l'Atlético laisse les ballons, la Juve est content. Elle dit, on va sortir de ce match avec un 0-0. C'est un faux rythme. La Juve, après, s'est rendre compte que l'Atlético ne suffit pas et se fait surprendre totalement, pas préparé à cette deuxième mi-temps. Il n'y a qu'un coupable. Pour moi, c'est Allegri dans cette gestion.
Donc, ils sont d'accord avec nous là-bas, de l'autre côté.
Mais tu peux pas nier ça. La Juventus est partie dans cette Ligue des Champions avec des énormes ambitions, un mercato important, et Cristiano, aujourd'hui, c'est le seul joueur qui t'a montré quelque chose de plus dans ces matchs.
Moi, j'ai rien vu de Cristiano. J'ai rien vu parce que aussi on l'a jamais trouvé. Attention, mais je peux pas dire qu'il a été bon, qu'il a été
l'animation offensive.
Aujourd'hui, c'est pas le meilleur
milieu attaque. Mais en même temps, attention.
Pour moi, aujourd'hui, c'est pas le meilleur italien sur le terrain.
On peut critiquer la Juve ce soir, mais il ne faut jamais oublier le mérite de l'Atlético dans leur capacité qu'ils ont justement à chaque fois de te casser tes lignes, d'empêcher tes relations entre tes joueurs. Ça, ils excellent dans ce domaine-là. Donc, tu peux toujours dire, à juste titre, Ronaldo fait pas le match, machin, truc et tout. Mais Ronaldo contre l'Atlético, il lui arrivait d'être bon, il lui arrivait aussi d'avoir beaucoup de mal contre cette équipe. Dybala.
Cette année, il a marqué qu'un but en Ligue des Champions, Cristiano.
Normalement, il l'attendait pour à partir de février.
Après, deux matchs, il
sur
121
buts. Hein.
Donc, mais il l'attendait. Il avait misé sur Ronaldo en février. Hein, c'est pour ça qu'il a été recruté. Après, bon, là, sur ce match. Mars. Pareil,
il n'a rien fait, t'as l'impression qu'il
tombe dans une espèce de toile d'araignée formée par les joueurs de l'Atlético et que les mecs sont aspirés. Bettencourt a disparu au milieu de terrain, pareil, aspiré vers le bas. Matuidi, il se bat comme il peut. Moi, je veux bien, Matuidi,
critiquer Matuidi, ça sert à rien.
Non, mais
ce
c'est
soir.
Toujours pareil, on connaît ses qualités. On l'a vu encore à la Coupe du Monde et tout, mais on sait aussi quelles seront ses limites éternelles. Dans un milieu de terrain comme ça, où t'as Pjanic un peu en dedans, Bettencourt bouffé, c'est pas Matuidi qui sauvera ton jeu.
Non, lui, il est pas là pour ça.
Il est pas là pour ça. Donc,
toi, tu sais qu'il n'a pas d'espace. T'as pas d'espace. Tu dois les bien utiliser. Donc, t'as besoin d'un Pjanic en bonne soirée qui trouve les ballons verticaux pour Cristiano, pour Dybala. Mais là aussi, Dybala n'a jamais cherché un espace.
Le choix de Deschilio et de Cancelo, c'est parce qu'il y a Dybala et pas parce qu'il faut pas, il bien faut sûr. Un peu verrouiller bien un sûr. Peu plus.
Ouais. Bien sûr. Déjà.
Que je pensais aussi.
Déjà, Dybala n'aurait probablement pas dû jouer, mais il y a eu ses soucis. Pour Khedira, il y a eu un souci cardiaque, il a été opéré ce matin, pour un arythmie.
Oui, ça, au dernier moment, c'est sûr que ça fausse un peu le plan.
Ça fausse un peu le plan.
T'as l'absence de Diego Costa, pas Diego Costa.
Douglas Costa, t'as pas Cuadrado, mais bon, c'est des joueurs qui peuvent donner de la vitesse, mais c'est même pas un discours de vitesse.
Le problème, c'est que la profondeur avec l'Atlético, tu la trouves difficilement,
Pour moi, il y a un problème de vitesse. Pour moi, il y a eu un vrai problème. La Juve ne jouait pas.
Il faut les prendre en vitesse. Si tu l'as pas.
Pour moi, le problème, il est là. C'est que la Juve n'a pas joué assez vite ce soir contre la vitesse. Même dans les contre-attaques, on avait l'impression qu'ils faisaient même pas les contre-attaques.
Je pense qu'ils ne voulaient même pas. Moi, je pense qu'ils voulaient trop le 0-0.
Oui, mais
je pense
ça.
Même
mais
que le 1-0 à la limite.
Ça, on l'a déjà dit, Daniel. Mais le problème, c'est comment ils auraient dû faire maintenant par rapport à cette équipe-là. Ils auraient dû jouer beaucoup plus vite alors que, ils s'attendaient à vouloir trop maîtriser les débats.
Qui sont les joueurs qui
Simonet, le mot de la fin pour toi.
Qui sont les joueurs qui accélèrent les jeux dans cette Juve? Alexandro, méconnaissable. Dybala, Pjanic diminué. Donc, ce soir, il n'y avait pas les joueurs pour faire ces plans-là. Et je répète, encore une fois, Allegri, pour moi, est très coupable ce soir parce qu'il ne se rend pas compte qu'il est vraiment dans une toile d'araignée et il n'arrive pas à sortir. Donc, au match retour, pour moi, il y a quand même beaucoup d'espoir. Va manquer Diego Costa et Thomas, qui sont des joueurs importants pour l'Atlético. Et surtout, à 3 semaines pour remettre un peu la tête
au bon. Est-ce qu'il aurait été capable, Allegri, de changer le dispositif? Ils sont capables, la Juve, de changer de dispositif en cours de match?
Allegri!
Avec les mêmes joueurs.
Allegri, il est capable souvent d'échanger des choses à niveau tactique, de passer avec une défense à 3, de renforcer les milieux. Tu pouvais faire rentrer plutôt
Bernardes. Là, renforcer le milieu, pourquoi il ne le fait pas aujourd'hui?
Allez, Simone. Parce qu'il y avait moins des choix.
Faut qu'on passe à la suite, les gars.
Donc, pour moi, quand même, il a raté
la façon dont il va aborder le match retour m'intéresse vraiment. S'il se met dans une optique de dire 2-0, mine de rien, ça peut faire un but par mi-temps, ça peut faire, prenons un peu notre temps, parce que si on se découvre trop, on peut mourir tout de suite, machin. S'il part là-dessus, c'est mort.
Tu dois, moi, je pense qu'il faut y aller immédiatement, ouais, tenter le tout pour le tout à la gorge direct.
L'autre match, les gars.
Moi, je le ferai comme ça, parce que eux, si t'essayes de gérer les séquences avec eux, t'es mort.
Mon petit David, Schalke menait 2-1, oui, c'est assez inattendu finalement, deux pénaltys, mais ils n'ont pas réussi à tenir contre City à 10. Hein.
Oui, alors en fait, il y a une espèce de parenthèse fantastique dans ce match qui a commencé et qui a terminé comme la saison de Schalke. C'est-à-dire que au début, but encaissé par Schalke, la cagade du gardien Fermann qui est en perte totale de confiance, qui avait même été remplacé, oui, qui avait même été remplacé dans le courant de la saison par un jeune qui s'appelle Nübel. Ça montrait que Fermann n'était plus du tout compétitif. Et ce soir, le match débute conforme à la saison de Schalke. Schalke est mené, c'est tout à fait logique. Benoît, qui suivait le match pour nous expliquait que Schalke ne voyait pas la balle et il avait raison. Derrière, tu as une espèce de parenthèse un peu fantastique dans le sens pas très rationnel, quoi, avec des décisions arbitrales plutôt favorables, même si à mon
contre
sens
le cours du jeu,
elles sont pas scandaleuses, contre le cours du jeu, deux pénaltys consécutifs, Schalke mène. Et à la fin, alors que Schalke a toutes les cartes en main pour préserver quelque chose d'intéressant, une courte victoire certes, mais une victoire, une supériorité numérique comme tu le disais, Gilbert, et ben là on retombe dans ce qu'on était au début et dans ce qu'on a connu tout au long de la saison, une perte totale de confiance, deux buts encaissés dans les dernières minutes, et comme le disent évidemment les confrères, il n'y a pas de surprise en Allemagne, cette espèce de réveil brutal alors qu'on était un peu dans un rêve pendant une bonne partie du match et qu'on pouvait entretenir une illusion pendant 3 semaines. Belle synthèse.
Belle synthèse, bravo. On va pouvoir te laisser là-dessus. Dans quelques instants, Julien Laurence nous rejoindra pour donner son point de vue sur City, et puis on va également parler du PSG, hein, bien sûr, qui a battu Montpellier 5-1. Jean-Michel Aulas s'est mêlé de ce match avant la rencontre. Enfin, les faits lui ont pas donné raison, on y reviendra dans quelques instants. Exactement, je rappelle les résultats. En Ligue des Champions, l'Atlético bat la Juve 2-0, City gagne à Schalke 3-2 en Ligue 1, le PSG bat Montpellier 5-1, Bordeaux-Guingamp 0-0. À tout de suite sur RMC.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Gilbert Bribois.
L'After est là jusqu'à minuit, il est 23h43. On va encore évoquer City pendant quelques minutes, puis le PSG. Le PSG qui a battu Montpellier 5-1. On vous attend. On a des infos à vous donner. Tiens, par exemple, ce soir, le PSG nous apprend que Neymar part au Brésil demain pour continuer son traitement là-bas. Donc, comme l'an dernier, en fait, hein, finalement.
On fait une petite fête.
Pour des raisons médicales, hein, dit le club. Donc, Neymar part au Brésil demain.
Marc, c'est bien, il le paye un an, il fait 6 mois au PSG, 6 mois au Brésil, c'est pas mal.
Bah écoute, après, hein, s'il fait gagner la Ligue des Champions,
il est blessé.
Là, il est blessé.
Il est blessé.
Bah oui, il est blessé. Ouais.
Julien Laurence est avec nous, notre spécialiste du foot anglais, évidemment, Jenny Lawrence. Jenny, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Salut Jenny.
Bon, City a 10 contre 11, ça fait le métier, mais bon, City a quand même douté dans ce match, comme on l'a vu avec David Lorto il y a quelques instants.
Ouais, il avait raison David, hein, dans son analyse du match. C'est vrai que City a cette mauvaise habitude d'encaisser beaucoup de buts en Ligue des Champions cette saison. C'est la 6e fois sur leurs 7 matchs pour l'instant dans la compétition où ils encaissent au moins 2 buts. On l'avait vu contre Lyon, notamment au match lors des 2 matchs pendant la phase de poule. Et c'est vrai que ces 2 pénaltys comptent complètement contre le cours du jeu. Mais c'est vrai que cette équipe de City, après l'ouverture du score, a bizarrement arrêté de jouer un petit peu, elle a reculé, elle a pris moins de risques offensifs et elle s'est un petit peu endormie, j'ai eu l'impression. Elle a laissé chacun revenir dans le match et la seconde période après, c'est beaucoup plus difficile de revenir déjà à 10 contre 11 comme tu l'as dit, et puis face au bloc très bas finalement des Allemands, et c'est le but de Sané, ce coup franc incroyable.
Oh, quel coup franc magnifique.
Quel coup franc magnifique. D'ailleurs, j'ai du mal à comprendre pourquoi Sané n'était pas titulaire dans un match comme ça. Je pense que Guardiola à ce niveau-là, tactiquement, j'ai pas trop compris ce qu'il a essayé de faire dans son animation offensive.
Mais, Sané en Coupe d'Europe, non? Contre Offenheim, non? Il met un coup franc aussi de malade comme ça.
Il en avait mis un effectivement comme ça, comme assez magnifique, tu as raison, en phase de poule, mais il a un talent incroyable et le fait de le laisser sur le banc, peut-être que émotionnellement, Guardiola a senti que face à son ancien club, c'était.
Oui, parce qu'il vient de Chelsea,
je sais pas, mais c'était bizarre, ouais.
Ouais, je sais pas.
Bon, enfin, en tout cas, City a fait le métier, hein. Bon,
oui, 3-3, ça va aller. 3-2, pardon, ça va aller, oui.
Pas trop inquiétant pour le retour.
Oui, hein. Même si t'as perdu Otamendi, donc qui a été expulsé, tu perds Fernandinho, qui sera suspendu parce qu'il a pris un jaune.
Ils ont 2 suspendus, non? 3 suspendus.
Pardon?
Ils ont 3 suspendus, non, pour le retour.
Ouais, 3 suspendus, mais Fernandinho, c'est surtout le joueur clé, hein, dans la période un petit peu négative Si tu as eu en fin d'année, en début d'année, c'est quand Fernandinho n'était pas là, qu'ils ont perdu notamment contre Leicester. C'est vrai que c'est lui, même si on parle beaucoup des autres, et notamment des joueurs offensifs, c'est vraiment lui qui fait, qui est le maillon très important de cette équipe, qui fait le lien entre la défense et l'attaque, qui est vraiment pour moi le joueur clé de cette équipe de City. Et c'est vrai que sans lui, c'est pas vraiment la même chose. Mais normalement, à domicile, il ne devrait pas non plus y avoir de problème trop dans le troisième match retour.
Merci Julien.
Ils ont ce problème, et bonne soirée, charnière salut. Centrale, et le fait que Fernandinho soit un peu le rouage unique fait que j'adore cette équipe, mais j'ai du mal à la voir potentiel vainqueur de la Ligue des Champions. Oh. Elle a cette limite là dans son jeu selon moi, mais bon, c'est toujours un plaisir de les voir jouer. Évidemment, j'adore cette équipe. Mais
okay. Allez, 23h46, on passe au PSG qui a gagné 5-1 face à Montpellier. Alors, avant de parler d'Olas et de l'affaire annexe au match.
Franchement, le match.
Justement, je veux voir. Est-ce que vous voulez dire un truc sur le match?
Je m'en fous un peu, quoi.
Attention, parce que Montpellier, mine de rien. Moi, je l'ai pensé. Je pensais qu'ils allaient faire comme à Lille, 0-0, double bus.
Et non, ils ont pas fait.
Daniel, ouais, parce que tout à l'heure, Daniel, tu disais, ouais, ils ont rien fait, machin.
Ils ont rien fait. Parce qu'on parlait de Ligue des Champions. Ils ont mis du temps à craquer. Ouais. C'est vrai qu'ils ont pas mis le bus, comme dit Gilbert. Ils sont pas tous mis derrière et tout ça. Après. Même si j'étais concentré principalement sur l'autre match, j'avais pas le sentiment que Montpellier pouvait faire quelque chose, quoi. Ils avaient pas la balle, ils étaient baladés à droite à gauche.
Disons que, comme beaucoup d'équipes, ça tient jusqu'à la 60e.
Oui, c'est pas original.
70e, et
plus
puis.
Plus ou moins que les autres, mais voilà. Non, mais ils sont plutôt bien défendus, ils sont bien, très bien, après, bon.
Avec un bon Lecomte.
Ouais.
Milan prend 5.
Paris a tout contrôlé, ils attaquent tout le temps, évidemment, c'est normal, ça finit par rentrer, quoi. Voilà. Mais Montpellier a pas mis double autobus et ça.
Contre Lille, ils avaient réussi.
Ils reviennent à un partout, beaucoup franc. Mollet est un bon joueur, on le répète à chaque fois.
Ouais. C'est vrai. Par contre, le pauvre Hilton, il a passé sa soirée.
Quand ça va vite en Ligue 1, il peut tenir encore, mais niveau au-dessus, il peut plus. Et là, c'est niveau au-dessus, il peut plus, quoi.
Ouais, bah parce qu'ils ont trop reculé à partir d'un moment, parce qu'ils subissaient trop. C'est pour ça que le compte, il voit plus rien arriver.
Mais il y a des matchs où le PSG fait beaucoup plus en possession.
Ah ben bien sûr.
Là en possession, ils sont pas assez écrasants.
Le début de match, il y a eu 2-3 arrêts de Gigi, il y a eu
Oui, c'est vrai, il y a fait c'est vrai.
Alors, il y a un truc à analyser bien sûr, c'est ce que dit Olas. Juste avant, une petite anomalie quand même, je sais pas si vous en êtes tous rendu compte, mais il y a un truc assez étrange dans cette rencontre. Paredes ne pouvait pas jouer puisque donc il n'était pas
Je sais pas s'il avait analysé tout ça.
Paredes ne pouvait pas jouer parce que il est pas qualifié puisque il était pas au club au moment où le match aurait dû se jouer. Et en même temps, Silva ne joue pas ce soir, Thiago Silva suspendu, alors que il aurait pu jouer le match s'il avait pas été joué. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Il y a une espèce d'anomalie quand même de règlement là, c'est un peu bizarre.
Un problème spatio-temporel.
Bah, moi j'estime que
il est perdu dans le trou noir temporel des matchs rapportés.
Pour moi Paredes, pourquoi il pourrait pas jouer? Le match est décalé, c'est comme ça. Je veux dire
tout est son contraire.
Ouais, non, ça je peux la comprendre cette règle moi.
Bon, je sais pas.
Moi, je la comprends. Le mec, il existait pas au moment du match. Il est normal que dans le match reporté, il joue pas. Ça me choque pas, ça.
Non, parce que tu le remets dans le temps. Tu comprends, parce que tu le remets.
Dans le même temps,
le mec, il était pas suspendu.
Mets Thiago Silva dans le temps aussi. Il était pas suspendu à la date prévue du match. Donc, pourquoi il le serait là?
T'as le temps?
Non, mais là-dessus, t'as raison aussi. Il faudrait replacer dans le temps ancien.
Tu fais comme si t'étais début janvier.
Oui, c'est un retour vers le futur, normalement.
Voilà, c'est retour vers le futur.
Voilà,
c'est Marty McFly. Voilà.
Et sans Biff Tannen.
Ouais. Jean-Michel Aulas, avant le match, tweet. Il était aux alentours de 18h20, il dit, quand on voit la compo de l'équipe du PSG, qu'on n'avait pas d'ailleurs à ce moment-là, c'est important.
Que personne n'avait d'ailleurs.
À 18h, je sais pas comment
il fait pour l'avoir. Pour le match que la LFP a décidé de reporter pour permettre au PSG d'aller en ambassadeur au Qatar, on peut s'interroger sur l'équité sportive relative aux premières places auxquelles Montpellier participe. Il parle indirectement de lui parce qu'il est aussi dans les premières places.
C'est difficile quand même parce que sur chaque phrase, il y a une connerie. C'est costaud quand même, hein. Peut-être tu te dis, moi, à chaque fois, ça comme, alors, j'en
je
parle, tout ça.
Je précise pour être complet, Daniel, que Didier Quillot, le DG de la Ligue, a fait lui aussi un tweet qui a ensuite été effacé par lui sans doute.
Oui, je pense qu'il a pris la mesure de son erreur et qu'il a vite qu'il
et
a
Didier
vite
effacé. Kio dit,
c'est toujours mieux de reconnaître son erreur.
Hein. Didier Kio précise, il dit attention, c'est la normal. LFP ne voulait pas déplacer le match. Ce sont les présidents de club, et c'est vrai, qui, dans leur majorité, ont dit on est d'accord pour déplacer le match.
Et Olas
et ne voulait pas
donc, le déplacer. Donc en plus, non seulement Olas ment, fait croire aux gens que le PSG a décidé seul alors que les présidents dans leur majorité
que lui il était d'accord, c'est la ligue,
mais c'est un mensonge.
Lui il était d'accord, tu penses qu'il était d'accord,
ils étaient il y a peut-être pas eu
l'unanimité.
Après on ne sait pas parmi les présidents qui étaient d'accord, la majorité était d'accord,
peut-être que lui n'était pas d'accord.
Déjà il y a un respect de la majorité, et deux, je demanderai demain et demain soir tu me feras penser à donner la réponse si Ola de quel côté Ola a voté. OK. Donc là, il ment, puisque ce sont les présidents à la majorité qui acceptent. C'est pas la Ligue qui décide unilatéralement de ce genre de choses-là. Donc déjà, il fait croire quelque chose. Il alimente dans la tête des supporters, parce que lui, il pense ne parler qu'aux supporters débiles. Donc
c'est
dans
pour
la
ça
tête,
que Kio précise, voilà,
dans
que
la
Kio
tête
dit,
du supporter de base, il entretient une forme de complotisme. C'est à la mode en ce moment, tu vois, en plus toutes ces idées malsaines et pourries qui gangrènent notre société. Lui, il entretient ça, tu vois. Il surfe sur cette bêtise-là humaine. Ah, et alors, après la suite.
Ça y est, tu m'as énervé.
Tout après, est bête, mais Daniel, non, mais c'est horrible ce qu'il fait.
Sémantiquement, juste sur le plan sémantique, quand il dit c'est la Ligue qui a décidé, en fait, c'est effectivement une décision de la Ligue. Mais derrière ça, ce sont les présidents qui ont demandé à la Ligue de faire ça.
Voilà. D'accord, vas-y, après.
Enfin, bon, donc sémantiquement, il n'a pas complètement tort. Ouais. Donc pour permettre au PSG d'aller en ambassadeur au Qatar, c'était effectivement le moment du stage du PSG. Stage obligatoire pour justifier de certains contrats. Donc on peut considérer que les présidents ont quand même fait une fleur à Paris sur
bien
ce truc-là. Hein,
ouais, une fleur tout à fait normale, puisque le PSG fait une fleur à tous les autres clubs en faisant monter les droits télé. C'est du business, hein. Ouais. Il faut dire ce qui est. Tout le monde est content, tout le monde croque ensemble. La Ligue 1, normalement, est censée dans une entreprise commerciale se serrer les coudes entre clubs parce que le blé il est pour tout le monde. Hein.
Bah,
La suite, c'est encore mieux.
Ce qui est obsolète dans le tweet de Las, c'est quand on voit l'équipe qu'Aline Tourelle.
Et le résultat final.
Bon bah, au final, c'est une équipe type, enfin du moment.
Et déjà, en plus, d'un point de vue turnover, vu la situation et le nombre de matchs que le PSG a joué, déjà le PSG fait absolument ce qu'il a envie de faire. Et Ola, c'est absolument pas à se mêler des compos du PSG. Mais en plus, il ne met même pas une compo B. Et l'autre, il l'ouvre 2 heures avant qu'on ait tous la compo. Il se plante parce que le PSG fait un match sérieux et colle une tannée à Montpellier. Mais franchement, quand on vient
mauvaise
me dire,
pioche,
quand
tenté,
on vient me dire
coup, qu'il vient arriver, mauvaise pioche,
arrête, le mec, il était en Ligue des Champions hier soir. Mais mêle-toi de ton cul, arrête d'aller te mêler du cul des autres sans arrêt. Quand tu montes au cocotier, vérifie que t'as pas des traces de caca collées derrière. C'est Daniel, un proverbe africain. Ça.
Tout de même.
Non, c'est un proverbe africain.
Ah bon?
Ah bah tu connais pas, quand tu montes au cocotier, vérifie que t'as le cul propre.
Je connais pas tous les proverbes africains, si tu le lis.
Alors là, je suis très étonné, parce que c'est quand même un continent que tu connais bien.
Oui,
tu connais pas ce proverbe?
Non.
Quand tu montes au cocotier, vérifie que t'as le cul propre.
Je suis pas un spécialiste des proverbes africains. Il y a certains gars qui sont des spécialistes, mais moi non.
Écoute.
T'en penses quoi, Lionel, de cette affaire?
C'est une vraie bêtise. Non, je suis pas d'accord. Il fait beaucoup de belles choses, le président, mais dans sa communication, franchement, il y a des fois, il dépasse les bornes.
Didier Kio, dans la foulée, répond au tweet d'Olas. Donc déjà, la manie du tweet, faut faire attention, machin. Donc il dit non, il précise, mais c'est vous à la majorité qui avez décidé. Et il le dit, mais sur l'équité, oui, en gros, il le rejoint. Bon, après, il se rend compte qu'il est en train de faire une grosse connerie, il efface le tweet. Bon, comme je disais, c'est toujours bien de reconnaître son erreur, mais avant de se mettre dans la roue d'Olas, il faut faire attention. Bon, LFP qui par ailleurs a bouleté comme c'est pas possible dans la foulée, bon ça c'est pas l'œuvre directe de Kio, ça il faut quand même le préciser, en mettant une amende à Nantes pour utilisation de fumigène au stade le soir de l'hommage à Salah. Là, je veux dire, bon, là, on
oui,
est dans
la... Oui, c'était des fumigènes liés à l'hommage.
Là, on est dans la connerie à l'état pur, là.
Ah oui, c'est la lettre à l'esprit, c'est toujours pareil.
Moi, c'est ce que j'en pense des fumigènes.
Là, c'est vraiment dur.
On va conclure sur Lyon.
Notre football, on a l'impression quand il peut
Daniel,
faire une connerie,
du temps.
Il ne la rate jamais.
On va conclure sur Lyon, puisque gentiment on a dévié sur Lyon avec Jean-Michel Aulas, parce que Bruno Genesio était l'invité de Tim Dugal, il a parlé de plein de choses, de son avenir, il a dit oui, je travaille désormais avec Pini Zahavi, oui, je veux rester, oui, je suis content.
T'imagines la dimension de Bruno Genesio?
Bien sûr, oui, je suis content.
Avec Pini Zahavi quand même, le king of the king des agents, quoi.
Le mec, il peut le placer n'importe où il veut.
Bah, quand t'es avec Pini, je veux dire, le mec, il peut débouler à Manchester United.
Pour moi, il n'a aucun intérêt à continuer avec l'OL.
Ah, c'est ce que lui a dit Dugal. Il lui a dit, t'as pas envie de partir en senior comme Zidane.
Ben lui, voilà, non, mais moi c'est ce que je lui préconise. Franchement,
vous retrouvez l'interview sur RMC
Sport. Elle est très bonne. Qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine s'il re-signe? Il va encore se faire taper dessus, parce que quoi qu'il arrive, il se fera taper dessus à un moment donné.
Ce que tu oublies, c'est qu'Olas a besoin
de ça. Renseigneur et
Olas a besoin de quelqu'un qui se fait taper dessus, parce que ça lui sert à lui de parasol.
Attention.
Ou de paravent ou de par ce que tu veux.
Pour être complet sur tout ça, Nice matin. Parle ce matin.
Patrick Vieira.
De Patrick Vieira.
Ça m'étonnerait pas, parce qu'il veut un
Lyon serait intéressé par Vieira, qui est sous contrat jusqu'en 2021, mais il y a une clause qui lui permettrait de quitter s'il y a un club d'envergure le contact. Donc, voilà.
Il prend pas Laurent Blanc. Laurent Blanc est sur le marché, ça va bien, Lyon.
Les presses anglaises en parlent ce soir pour remplacer Sarri.
Ah. Donc, voilà. Sarri qui est pas bien.
Et Bruno Genesio a parlé de Daniel, son nouvel ami.
Encore?
Écoutez.
Salut. Dernier petit message, Bruno. Faites pas trop de pub à Daniel Riolo en conférence de presse quand l'Europe entière vous regarde. Ouais, après, on le tient plus, c'est plus possible.
Non, c'est pas trop. Déjà qu'il a un boulard incroyable.
Il a demandé le tapis rouge avant d'arriver dans les studios.
Merci. Salut, Bruno.
Bah, c'est le bonjour de ma part.
Ok, ce sera fait.
C'est gentil.
Bah voilà, ils sont potes maintenant, les mecs. C'est-à-dire que le fracasse pendant 6 mois, mais il devient pote. C'est la magie de l'after.
Mais c'est un bon mec, non?
Mais en fait, vous vous trompez, parce que d'abord, c'est pas comme ça que ça se passe. Lundi soir, après sa conf, j'ai envoyé un message, je lui dis, je te souhaite un super match demain, vraiment sincèrement, et il sait que c'est sincère quand je lui dis.
Tu lui as dit salut Pep, quand tu lui envoies le message?
Non, d'ailleurs, je devrais le faire.
Salut Pep,
j'ai fait bonsoir Bruno.
T'as répondu?
Ça m'a fait bien sûr qu'il m'a répondu, il me répond tout le temps.
Match ou?
C'était la veille, le match était mardi, lundi soir. J'ai entendu la conf, j'ai dit, ça m'a fait marrer, ce que t'as dit, dans la conf. Et tout, il me dit bah ouais, c'était pour rigoler. Je lui dis mais évidemment que je comprends, c'est génial. Je te souhaite un très bon match pour demain.
C'est génial parce que donc vous êtes les meilleurs amis du monde.
Mais je l'aime beaucoup, mais j'ai toujours dit depuis le premier jour, j'ai toujours dit que je l'aimais beaucoup.
Pep Genesio, ça va devenir un vrai Pep Genesio.
Mais depuis le premier jour, j'ai toujours dit que je trouvais que c'était un type formidable. Après, j'ai le droit de dire que parfois dans sa gestion, il y a des choses que je comprends pas.
Dernière info.
Mais humainement, mais j'ai jamais attaqué quelqu'un humainement.
Visé par une enquête pour fraude fiscale. On aura peut-être plus d'infos demain, on vous le donnera. Et puis je voulais vous parler de la Youth League vite fait parce qu'on en a pas parlé hier soir. Hier, le PSG a été éliminé dans un match catastrophique par le Hertha Berlin. Ils étaient largement supérieurs. Ils ont fait n'importe quoi, les jeunes parisiens. 2-1 pour le Hertha. Monaco a perdu.
Ils ont fait n'importe quoi. Ils ont pris 2 buts dans les dernières minutes.
Non, mais ils ont eu des occasions. J'ai vu le match.
Ouais, ils ont eu des occasions.
Chelsea a battu Monaco 3-1. Et aujourd'hui, deux équipes françaises sont qualifiées pour les 8e. Lyon, qui a éliminé le Sigma Olomouc. J'adore ce nom. Un club tchèque, 2-0. Et Montpellier. Et
ils sont là-dedans comment, eux?
Bah, parce que Lyon participe à la Ligue des Champions.
Non, pas
à Sigma Olomouc, parce que c'est les vainqueurs dans leur catégorie chez les Tchèques. Donc là, ils sont qualifiés. Montpellier y est, parce que Montpellier c'est les vainqueurs dans la catégorie en France, et aujourd'hui ils ont éliminé Benfica, les Montpellierains, 2-1. Donc ils sont, et encore Montpellier et Lyon qualifiés en 8e de
Youth League. Il faut vraiment s'y intéresser pour comprendre comment ça marche, mais il paraît que c'est bien.
C'est beau.
Ouais, voilà.
J'ai vu quelques.
Et Guardiola, dernier déclat du soir, Guardiola qui dit: je suis un grand fan de la VAR. Voilà ce que dit ce soir Pep Guardiola.
Un des rares points où je serai en désaccord avec lui, moi qui l'adore.
Demain soir, Rennes au programme.
Oh, mais bien ce soir, il adore tout le monde, notre Daniel.
Bonne soirée. Demain soir, juste après le match Rennes, Bétis Rennes, on sera là, bien sûr, dans l'after. Bonne nuit à tous.
Et allez, Rennes, bien sûr.
RMC, évidemment. Football Show, l'after foot.